Tout de suite sur France Culture du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio aux coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, L'avenir devant eux, une série d'Aurélie Charron réalisée par Delphine Lemaire. Au départ de cette série, il y a la fragilité, la jeunesse, et ce qu'il y a d'émouvant à regarder vivre et grandir les adolescents, dans leur maladresse, leurs hésitations et leurs promesses. Mais il y a aussi l'envie de commencer la nouvelle année dans un élan, avec quelque chose de neuf. Cet éternel recommencement qui est aussi un pari. Et puis surtout, on voudrait les entendre, ceux qu'on juge trop vite blasés et égoïstes, malpolis et arrogants, ou passifs et désinvoltes. Alors peut-être qu'il faut se souvenir de la délicatesse de ces êtres en devenir que l'on a tous été, et qui ont à la fois peur et envie du lendemain. Il faut constater leur engagement et laisser leurs mots nous pousser dans le dos. Pour commencer, les personnages. Deux amis, un très jeune maire et son très jeune directeur de cabinet, une jeune femme qui fait médecine, revendique son voile autant que son féminisme et se plaît à être là où on ne l'attend pas. Et une jeune militante, trop jeune pour voter. Ensuite, le décor. Une salle des mariages, un portrait présidentiel de travers, le Nord qui peut être accueillant ou méfiant, quelques rues lyonnaises, d'autres Neuhof en Alsace, un village et des envies de s'engager. Aujourd'hui, troisième épisode, on est en France et la mairie est encore ouverte.
Je vais éteindre la lumière parce que on demande à faire des économies. C'est tout le monde qui doit faire des économies, des efforts. Hop, on monte à l'étage.
Ça, c'est la salle où tu célèbres les mariages.
C'est la salle des mariages et du conseil municipal. Donc, c'est ici où... Et puis, les moments heureux avec les mariages.
Et t'en as célébré combien, maintenant?
J'entame ma troisième année de mandat, je sais pas, j'en ai peut-être fait 20, 25.
Et peut-être que tu vas te marier dans cette salle?
Peut-être que je vais me marier dans cette salle, ouais. Ce sera peut-être plus le projet d'un bébé, peut-être avant, on verra bien. C'est pas non plus tout de suite, là, à l'heure du jour, c'est pas non plus au fond d'un tiroir. Mais ce serait peut-être plus d'abord le fait d'avoir un enfant qu'un mariage. Bon.
Et un enfant, ça ferait la... combien de générations à Kievrochin?
5e. Oh, il dirait, je pense, je sais pas s'il habitera ici après quand il sera plus grand. Mais oui, il sera ici, et voilà. Jusqu'à son émancipation. Et puis, un jour, il choisira le projet qu'il voudra. Et puis, il volera de ses propres ailes, voilà. Ça fait un peu le roi lion, c'est l'histoire de la vie, quoi. Ça fait ce genre de choses. Mais voilà, ça fait partie du jeu, donc oui.
On s'assoit? Ouais. On se met sous François Hollande. Ah, tu le remets droit.
Oui, oui, oui. Il est pas. J'avais déjà fait une blague, mais il n'est pas encore tombé. Mais il est souvent de travers, alors je sais pas pourquoi. C'est peut-être la femme de ménage qui fait les poussières souvent dessus et qui ne le remet pas forcément droit, mais oui, je le remets droit.
Les nouveaux engagements. Un documentaire d'Aurélie Charron, réalisé par Delphine Lemaire. Leurs références ont tout à faire avec un imaginaire révolutionnaire. Que ce soit la Commune, la Révolution française, le rappeur Kerry James, la voix d'Angela Davis ou Mai 68, tous citent des événements en lien avec la résistance. Tous considèrent l'engagement comme important, mais ne le voient pas tous de la même manière.
Je sais pas, la France, quand est-ce qu'elle se rebelle ?
Pierre est devenu maire de sa ville à 23 ans, à Kievrochin dans le Nord, à la frontière belge. Et Maxence et son directeur de cabinet, ils ont fait la campagne ensemble.
Lui comme moi, on doit être deux personnes qui dérangent quand même, parce qu'on est peut-être jeunes et donc parce qu'on ne nous tient pas.
Tous les deux rêvent d'une 6e République.
Allô, c'est fini. La gauche, la droite, c'est fini.
Souheila, elle, a grandi au Neuhof à Strasbourg. Elle n'a que 17 ans, elle ne pourra pas encore voter pour les présidentielles, mais elle veut réussir à faire voter les autres.
En fait, là, on a mis en place du porte-à-porte pour voir si les gens ils étaient inscrits sur les listes électorales. Et ils ont juste à nous donner leur carte d'identité, en fait. Et après, ils sont inscrits, ils reçoivent directement chez eux à la maison la carte électorale. Et de là, ils pourront aller voter.
Zara ne croit pas au changement par la politique, mais plutôt par les associations, les groupes de réflexion. Elle est interne en médecine et musulmane.
En fait, j'ai perdu des grades, quoi. Alors que j'étais interne en anesthésie, que j'étais respectable et intéressante, et là, je devenais juste une fille voilée, mais bizarrement qui a réussi, quoi. Une erreur, quoi. Un artefact.
Ce sont quatre façons de s'impliquer dans l'avenir pour une génération qui n'a pas baissé les bras.
T'étais en permanence, là, cet après-midi ?
Oui, c'était les permanences. Chaque mercredi, je reçois les gens de ma commune qui ont des soucis et qui veulent me poser des questions.
Il y a toujours du monde ?
5 à 6 personnes chaque mercredi.
Pierre est devenu maire de sa ville de 6000 habitants. Il avait dit...
J'ai 24 ans, j'habitais Rochin, je voudrais votre maire pour telle raison, telle raison, telle raison. Je présente une équipe, je pense qu'on peut faire ça, ça, ça. Maintenant, donnez-nous les clés, on va vous démontrer qu'on fera le meilleur.
Il a grandi dans la ville de Kiev-Rochin, près de Valenciennes, à la frontière de la Belgique.
Et toujours cette passion des frites en Belgique.
C'est tellement bon pour ceux qui connaissent. Ils s'en souviendront quand je vais dire ça. Ceux qui sont loin et qui n'ont pas la chance de pouvoir en profiter, mais qui en ont déjà profité. Je pense à eux, là. Ils doivent être en train de se dire « Oh là là, c'est vrai, qu'est-ce qu'il a raison ?»
Il se décrit comme un gamin de coron, fier de la mémoire ouvrière de la région, qui un jour s'est rendu compte que ça faisait 37 ans que l'ancien maire était là. Il a décidé qu'il fallait changer et s'engager, et il a été élu avec 60% des voix.
Je suis honnête, quitte à décevoir. C'est des mots qui formettent pas que dans la vie politique, dans la vie de tous les jours.
Pierre avait un arrière-grand-père résistant. Il admire De Gaulle et n'appartient à aucun parti politique. Il se dit centre-droit. Et l'événement qui l'inspire, c'est...
L'appel du 18 juin. C'est le gaulliste qui reprend le dessus, là. Mais finalement, cet appel-là, il n'était pas gaulliste. C'était un appel à cette France qui résiste, en fait.
Moi, général De Gaulle, j'entreprends ici... En Angleterre, cette tâche nationale, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voilà, il n'y a pas de fatalité, il se passe ça, 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 mais il y a une France qui résiste et que vous soyez de gauche, de droite, ouvrier, paysan, patron, homme, femme, si vous vous sentez oppressé et que la situation ne vous plaît pas, bah, sachez qu'on peut s'organiser et qu'on peut travailler pour que cette situation change. C'est ça l'appel du 18 juin.
Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Pierre a choisi de s'engager et d'agir, même s'il a parfois un peu de nostalgie pour des temps plus doux.
Jamais la jeunesse n'a été aussi... dire pragmatique, mais aussi associé à un degré d'ouverture tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Jamais elle a eu autant de chance et autant d'outils qu'actuellement, mais en même temps, je pense que jamais elle était aussi paumée. C'est pas vers quoi aller et quelle direction prendre pour être bien, quoi.
Et toi, t'es révolutionnaire ?
Oh, je pense être révolutionnaire à mon sens. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut une 6ème République. Alors encore une fois, on me dit, mais attends, tu dis que t'es gaulliste et 5ème République, c'est De Gaulle, et tu dis qu'il faut une 6ème. Mais oui, justement, dire aujourd'hui qu'il faut une 6ème République, c'est être gaulliste. Pourquoi ? Parce que De Gaulle est arrivé à l'époque, vous entendez, le monde a changé, la Constitution, les institutions ne fonctionnent plus, on fait un nouveau contrat de confiance avec le pays, on propose de nouvelles institutions, une nouvelle organisation, et ça s'appellera la 5ème. On est basé sur des institutions, une constitution qui date de l'après-guerre, avec le contexte qui existait avant l'après-guerre et les enjeux de l'après-guerre. Aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte.
Il a été un peu déçu par la réalité du terrain depuis son élection.
Quand j'ai des relations avec les services de l'État, j'ai souvent en face de moi des fonctionnaires qui sont résignés, qui me disent « Ah oui, mais vous savez, c'est comme ça, et si elle a relativisé, tout va bien, même si tout va mal. » Mais voilà, de manière un petit peu ironique. Et puis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on cherche plus à mettre des bâtons dans les roues qu'à aider et à impulser de nouvelles choses. Et ça, je trouve ça un petit peu compliqué et frustrant en tant qu'élu.
Ça veut dire que c'est d'abord impossible.
Ouais, on nous dit d'abord, on arrive avec un projet, mais on n'a même pas encore sorti le projet. On dit, bon, on vous le dit tout de suite, ça va être très compliqué. Nanana, on plante tout de suite le décor. J'étais dans une phase d'optimisme avec l'élection. Aujourd'hui, je suis plutôt un élu frustré sur le sujet. Donc voilà, après maintenant, je suis resté un élu combatif, mais avec pas moins niaque, mais beaucoup plus de recul et moins d'enthousiasme, en tout cas, que je pouvais avoir au départ. On a aussi forcément les revenus qui suivent, hein. Faut être clair sur le sujet. Mais non.
C'est quoi ton revenu à la mairie, là?
1975 euros par mois, net. Voilà. Je ne peux pas me permettre de me plaindre. Maintenant, voilà. Je suis très investi pour moraliser un petit peu la vie politique et puis remettre un petit peu d'ordre là-dedans, surtout en ce moment.
Tout à l'heure, tu disais que tu avais été élevé à la dure et que ça te servait aujourd'hui. Comment tu décrirais ça?
Élevé à la dure, on m'a appris la valeur de l'argent, on m'a appris ce qu'était le respect. Pour gagner quelque chose, il faut se battre, quoi. Ça tombe pas du ciel. Et j'ai eu cette chance, j'en avais déjà parlé, de travailler, d'avoir eu cette double vision, c'est-à-dire d'être élevé dans un milieu ouvrier. Mais mon grand-père était retraité, était contremaître dans une usine. C'était pas le grand chef, c'était pas non plus l'ouvrier de base. Mais voilà, il est rentré comme ouvrier. Et pour passer les grades, les échelons, bah il a bossé, il a démontré, il a fait ses preuves. Il a pas grugé, il a pas cherché ce genre de choses. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une société où finalement, il y a plus de mérite, c'est celui qui gruge. Et c'est ce que les politiques démontrent aussi. C'est celui qui gruge, c'est celui qui ment, c'est celui qui a du vice, qui réussit. Et finalement, bah, celui qui a du bon sens et qui se bat et qui se débrouille et qui fait les choses comme il doit les faire, avec logique, bah, c'est pas lui qui évolue, c'est pas lui qu'on met en avant, c'est pas lui qui est récompensé, quoi. Les jeunes aussi, aujourd'hui, pour moi, il y a trois positions. Il y a une position, je fais mes études, je m'en vais à l'étranger, une fuite au Canada, etc., sur ce genre de choses, faut être clair, en Australie aussi. Soit la deuxième option, c'est je reste dans mon pays et puis je suis résigné, et puis voilà, puis je fais ma petite vie, je m'occupe de rien. Et la dernière option, c'est je reste dans mon pays, par contre je suis combatif et je vais au FN parce qu'il n'y a que le FN qui peut me permettre d'être combatif. Voilà. Si je veux caricaturer les trois types de jeunes aujourd'hui, pour moi c'est les trois types de jeunes qu'on a.
Toi t'es la quatrième catégorie? Non, mais t'es ni résigné, ni au Front National, ni au Canada.
Non, je suis pas parti, je suis pas résigné, je suis pas au Front National.
Peut-être un départ en Australie.
Existe-t-il une quatrième voie? J'en sais rien. Mais oui, non, je fais pas partie de ces jeunes-là. Par contre, des fois, dire, bah voilà, je vais tout arrêter, et puis, bah, il faut partir, et il n'y a pas d'avenir, ça peut m'arriver de penser ça. Et puis, ça peut m'arriver aussi d'être pessimiste et de vouloir laisser tomber aussi. Et puis dire, bah voilà, réintègre-toi dans la vie de tous les jours, et puis bah, laisse ça aux autres, et puis il viendra ce qui se viendra, quoi.
Ça t'arrive?
Ouais, ça arrive. Mais tant qu'on se relève le matin et qu'on est motivé, bah, c'est que ça va.
Tu disais tout à l'heure, de toute façon, c'est un CDD, je sais pas combien de temps je vais rester là, si je vais rester dans la politique. Est-ce que parfois t'as un peu peur de l'avenir?
Bah oui, forcément qu'on a peur. Demain, je suis pas réélu, ou pour X raisons, je suis obligé d'arrêter, j'ai rien, quoi, strictement rien. Donc oui, c'est compliqué. Mais les gens pensent que parce que je vais arriver avec mon étiquette, ouais, je suis maire, bah, je vais dire à telle entreprise, bah, tu me prends et je te donnerai un marché public où je ferai ci ou je ferai là. Il y en a qui le font, hein, mais c'est pas ma façon de faire et je pense pas que ce soit une bonne solution. Les gens pensent que par rapport à ça, je vais avoir du piston, je vais rentrer plus facilement, alors que c'est pas le cas.
Pierre est fier de dire que sa ville de Quievrechain est multiculturelle.
On a une communauté musulmane assez importante, on est une terre d'accueil, le Nord, on a reçu beaucoup de populations polonaises, italiennes, espagnoles, portugaises, algériennes, marocaines, tunisiennes. On a une forte communauté qui est assez soudée sur le sujet, et on a une mosquée dans la commune qui est gérée par une association et compagnie, qui reprend un ancien château qui appartenait aux mines, qui était plutôt un squat et un repère de drogués, et qui aujourd'hui est un lieu de culte, et qui se passe plutôt bien. Et forcément qu'on a des amalgames où c'était terroriste égal arabe égal musulman, donc tous les musulmans sont des terroristes, ou et c'est compliqué à changer ce genre de choses, parce que quand on rabâche, je disais, les médias à longueur de journée, quand on a des politiques qui prennent le relais pour faire ce genre de choses, aller rattraper le tir derrière, c'est très compliqué.
Il y a une génération de militants et de jeunes conscients et lucides et qui veulent changer les choses en profondeur. Et je trouve qu'il y a un espoir qui est là et je le verrais bien se réaliser, en fait, cet espoir. Pour pouvoir créer cette société dont on rêve tous, en fait, et qui pourrait nous permettre de tous, finalement, vivre en sécurité et en paix, quoi. C'est peut-être un peu cucu de parler comme ça, mais...
Zara a 25 ans. Elle a grandi dans la banlieue de Lyon, elle est interne en médecine à Dijon. Elle se bat avec une nouvelle génération de militants de toutes origines pour plus d'égalité.
Et toi, t'es féministe ?
Oui, bah on se définit comme ça, mais après il y a des féminismes, quoi. C'est important de garder la complexité de ces problèmes comme elle est et pas essayer de faire croire qu'on est toutes pareilles et qu'on a toutes besoin d'un truc, c'est la mini-jupe. Non, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Depuis toute petite, elle rêve de devenir médecin et elle a choisi la réanimation.
Ce qui a réellement motivé mon choix en fait dans cette spécialité, c'est les images de guerre en fait que dans lesquelles j'ai pu baigner depuis mon enfance, de tout temps en fait. J'ai toujours vu aux infos à la télé des enfants blessés sous les décombres, etc. Et je me suis dit, franchement, si je fais médecine, je vais pouvoir faire un truc, mais qui sera utile à ce moment-là, quoi. Et je voudrais pouvoir être là-bas à ce moment-là et pouvoir sauver ces gens-là, quoi. J'étais dans un truc un peu Mère Teresa, je vais sauver le monde, tout ça.
Très vite, Zahra rappelle d'où elle vient, une famille musulmane avec un père arrivé d'Alexandrie et une mère arrivée d'Alger.
Les mecs qui réussissent médecine sont en grande majorité issus de familles eux-mêmes, elles-mêmes assez aisées et privilégiées, entre guillemets, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens un peu comme moi qui arrivent un peu à l'improviste comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais du coup, on se reconnaît, en fait. Après, enfin, je ne peux pas dire que mes parents étaient d'un milieu très modeste. Enfin, c'était un milieu... Je pense qu'en Égypte, mon père serait plutôt une classe moyenne. Voilà, c'était pas non plus un prolétaire ou un ouvrier. Et donc oui, mes parents font des études, etc. Donc on peut pas dire non plus que je suis issue de la même immigration, entre guillemets, que beaucoup d'amis qui ont eu des parents qui étaient clairement des classes ouvrières et qui étaient clairement pauvres, etc.
Et toi, ils faisaient quoi, tes parents ?
Moi, mon père, il est organiste et claveciniste, passionné de musique baroque. Donc voilà. Il bosse aussi à la mairie de Villeurbanne, parce que c'est une des seules mairies qui a encore un orgue. Et donc, il fait de l'orgue pour les mariés, au mariage et tout.
Et donc, toi, t'as grandi où, à Lyon ?
Alors, j'ai grandi, en fait, au départ, en banlieue lyonnaise, dans un quartier, les Buères, jusqu'à l'âge de 8 ans. Et je pense que c'était une des périodes les plus heureuses de ma vie, honnêtement. Un côté hyper cosmopolite, en fait. Genre, ma meilleure amie, elle s'appelait Aïcha, c'était une malienne. Mon autre meilleure amie s'appelait Inès, elle était tunisienne juive.
Tu t'en parles un peu comme d'un paradis perdu.
Oui.
Comme si ça, tu l'avais jamais retrouvé.
Ouais, je suis nostalgique de ce temps où, en fait, on se posait pas ces questions, on était tous ensemble. Je pense que je l'ai clairement idéalisé, comme tous les souvenirs d'enfance, en fait. Mais malgré tout, c'était sacrément bien, quoi.
Et tes parents, ils ont le même souvenir ?
Je suis pas sûre, ma mère voulait vraiment déménager parce qu'en fait, je commençais à un peu trop bien maîtriser le vocabulaire des gros mots divers et variés qui se disaient dans le quartier, quoi.
C'est vrai, par exemple ?
Ouais, tout ce qui commence par Nikta, je maîtrisais toutes les variantes, quoi, si tu veux. Mon expression favorite, c'était « sa race maudite ». Je sais pas pourquoi. C'est le truc qui circulait à l'époque, tu vois, quand j'avais 8 ans. Et du coup, ouais, on a déménagé dans une banlieue tranquille... Et donc, on a suivi le mouvement et je me suis retrouvée dans une école où il y avait que des personnes, on va dire, blanches. Je sais pas si c'est choquant que je dise blanche. Moi, je dis souvent blanc, en fait.
Mais toi, du coup, à 8-9 ans, t'avais conscience de, quand t'es arrivée dans cette école nouvelle, de cette différence-là ?
Bah, j'étais complètement différente, en fait. J'étais. Déjà, j'étais pas habillée pareil. Ma mère avait décidé de m'acheter des baskets jaunes fluo à talons. Plateforme, tu vois, j'étais genre. Je m'en rendais pas compte, mais maintenant, franchement, je la remercie pas, quoi. Tout le monde me regardait un peu, et là, il y a une fille qui vient me dire « Le garçon, là-bas, il est amoureux de toi. » Donc, le mec, il l'a su en 5 minutes, quoi. Et là, je lui dis « Dis-lui un truc, sa race maudite. » Moi, j'étais trop gênée, en fait. C'est tout ce que j'ai trouvé à répondre. Et là, je me rends compte de la fracture, en fait, sociale. Et c'est vrai que, finalement, dans ces cas, ça s'est pas très bien passé. Donc, du coup, après CM1, CM2, je décidais que je me rebellerais jusqu'à la fin de mes jours, que plus jamais je me laisserais faire, etc., que le premier qui venait me parler, j'allais lui casser la tête, voilà. C'était un peu dans ce truc-là, hyper revendicateur et hyper, agressif un peu. Et du coup, les gens m'embêtaient pas trop.
Zahra a commencé à porter le voile en quatrième. C'était culturel, naturel. Sa mère ne l'avait mis qu'à 25 ans, mais Zahra s'est sentie en accord avec elle-même en le portant. Elle était dans un lycée ZEP et au début n'a pas eu trop de problèmes.
Au début, j'ai eu droit à des millions de questions plus ou moins intelligentes du genre « Mais quand tu prends ta douche, tu fais comment ?» J'y répondais gentiment, quoi. Et puis finalement, les gens m'ont laissé tranquille et j'étais juste celle qui porte un bandeau. Enfin, c'était un bandana, en fait.
L'objectif de la loi, c'est pas d'exclure, c'est de convaincre, c'est de démontrer que pour vivre ensemble, pour que sa liberté religieuse, que sa liberté de conscience soit protégée, il faut que la laïcité soit respectée.
Mais très vite est arrivée la loi en 2004 qui a interdit le port du voile à l'école.
Et là, en fait, j'étais exclue du collège. Donc,
comment ça s'est passé, en fait? Pourquoi t'as été exclue du collège?
Plus on m'imposait, en fait, cette idée, et plus c'était hors de question pour moi, en fait, finalement, d'obéir. Et donc, en fait, l'idée, c'était de faire un compromis, en fait. Genre, je vais porter un bonnet. Un bonnet, c'est pas un signe ostentatoire et ostensible et ce que tu veux. Donc, laisse-moi tranquille, en fait, laisse-moi aller en classe, quoi. Donc, j'ai le droit à plusieurs étapes, dont la fameuse phase de dialogue, qui consistait, en fait, à un isolement dans une salle seule, à recopier les cours de mes camarades pendant qu'eux avaient le droit de monter en classe et pendant que moi, j'étais dans ma petite salle toute seule. Par contre, je passais les examens en même temps pour pas qu'il y ait tricherie, quoi, et que je sois au courant des questions qui avaient été posées au contrôle. Ponctué, on va dire, de rendez-vous réguliers avec la principale. Vous enlevez ce que vous avez sur la tête, mademoiselle, avec une sorte de sourire, mais insupportable de suffisance. Et
ça a duré combien de temps, cette phase un peu d'isolement?
Ça a duré un mois et demi. J'ai pas eu, en fait, accès aux professeurs, quoi. Alors que le texte de loi, lui, spécifie que je devais avoir accès à tous les supports pédagogiques au même titre que mes camarades, en fait.
Et donc tu venais à l'école, enfin ouais. Tu venais au collège et t'étais dans une salle toute seule, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça. J'avais le droit d'aller à la récré. Je me souviens toujours d'un moment aussi où j'étais dans la salle de permanence. En fait, je changeais de salle régulièrement. Donc à un moment donné, j'étais dans la salle de permanence. Et là, je vois tous mes camarades passer devant la vitre. Et moi, derrière la vitre, assise à un bureau. Et là, je me suis dit, mais je suis vraiment un animal du zoo, quoi. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Enfin voilà, j'ai eu des grands-parents qui étaient résistants, que ce soit en Algérie ou en Égypte. Donc ouais, on n'a pas cette culture-là. Et pour nous, c'était une loi injuste et il n'était pas question de céder.
Zahra a fait le tour des collèges privés pour retourner à l'école. Tous l'ont refusé, sauf un seul, qui, au vu de ses très bonnes notes, l'a accepté sans souci.
C'était la grande bourgeoisie lyonnaise. C'était des fils d'eux, des filles d'eux, diplomates, etc. Groupe PDG d'entreprise, je ne sais quoi. Enfin, des millionnaires, quoi, clairement. Et du coup, les filles étaient là, bien en Gucci et compagnie. On était complètement différents, mais finalement, ça s'est bien passé parce que j'ai très vite sympathisé avec tout le monde, y compris des gens, mais qui étaient à des années-lumière de moi, en fait.
Mais c'était pas trop cher pour tes parents, ce collège?
Si, c'était trop cher, mais des amis, en fait, nous ont aidés à payer l'année. Donc voilà, on a pu se débrouiller pour payer cette année-là. C'était dans les 4000 euros par an, un truc comme ça, un peu moins. Et donc, j'ai pas pu continuer le lycée à cause de ça, parce que c'était trop cher. Et du coup, je suis retournée en lycée public. Là, j'ai bien dû me rendre à l'évidence, mais il a fallu que j'enlève mon voile, quoi. Et je l'ai très très mal vécu, surtout après l'histoire, en fait, que j'ai vécu au collège, etc., d'exclusion, où j'ai cru bon de résister jusqu'au bout, etc. Mais je finis par laisser tomber comme ça, sans crier gare. Il faut bien que tu ailles au lycée, donc tu vas l'enlever. La première fois que j'ai enlevé, je m'en souviens très bien, mais je me sentais littéralement nue. J'étais dépitée, quoi. J'avais le dos rond, comme ça, je regard vide, et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. C'était ultra violent, en fait. Et non, c'était pas libératoire et émancipatoire. C'était juste oppressant, en fait. Voilà. Il y a plein de filles qui ont été exclues du collège parce qu'elles ont refusé de l'enlever, qui sont sorties du système scolaire, quoi. Alors, je sais pas, je veux bien qu'on parle de liberté et d'émancipation et de féminisme, mais...
Et t'en as des amis qui étaient dans ce contexte-là?
Complètement. Moi, je connais une fille qui est sortie du collège, qui restait à la maison, qui a essayé de prendre des cours par correspondance. Je sais même pas si elle a eu son bac au final, parce qu'elle était au lycée, elle, à l'époque. Ouais, elle a lâché l'affaire, en fait. De venir nous libérer en nous sortant de l'école, quoi, c'est quelque chose que je comprendrai jamais.
Et pourquoi t'as accepté au lycée et que justement t'es pas devenue comme cette fille qui est restée chez elle? Et pourquoi tu t'es dit, bon bah finalement ok, je l'enlève pendant 3 ans?
Bah parce que un de mes objectifs principaux dans la vie, c'était de faire ma vie, de pouvoir être indépendante, d'avoir mon diplôme, mon métier.
Retour avec Pierre, le jeune maire de Quiévrechain.
Elle n'a pas forcément accompagné mon adolescence, mais une chanson qui était rigolote, c'était la chanson qui finissait les meetings du Parti Socialiste. Dans les années 80, c'était Téléphone à notre monde. Ça montrait au combien le PS avait encore avait une vitalité, était encore un parti politique avec de l'effervescence. Parce que c'est une très belle chanson, pas une chanson de gauche ou de droite hein, pour moi. C'est de se dire demain, voilà, les artistes, à leur manière, participer à faire ce que chacun peut faire, peut-être chaque nuit ou en se levant le matin, à rêver, à vivre autre chose et à apporter sa pierre à l'édifice pour que cette autre chose se réalise. Donc voilà, et ça faisait partie des missions du Parti Socialiste. Mais voilà, ça faisait partie, c'est une chanson que je trouve très intéressante et qui redonne le peps aussi.
Pierre avait fait toute sa campagne avec Maxence, devenu son meilleur ami et directeur de cabinet. Maxence a tout juste 22 ans.
Maxence, c'est peut-être un petit peu le frère que j'ai pas eu. Lui dira peut-être la même chose aussi, je sais pas. Je sais qu'il me l'a déjà dit, mais en fait, t'es le grand frère que j'ai pas eu. Et puis bah, moi, c'est un peu la même chose. On est complémentaires, on est entiers. C'est assez fusionnel, on va dire.
Et voilà Maxence.
Dans nos rêves les plus loufoques, quand j'étais plus jeune, j'avais 15-16 ans, je voulais faire le cours Florent. Hein. Ah bah oui, je voulais être acteur.
C'est qui ton acteur préféré?
Louis de Funès, ça l'est toujours. Il a bercé mon enfance, j'ai tous les DVD, tous les trucs, c'était... Je fais de la politique, c'est aussi un petit peu du théâtre. Hein, c'est... De Funès et Maillan, c'est... Je parais vieux, j'ai 22 ans, hein, je parais. Mais c'était c'est des monstres. C'est... Et donc je voulais être acteur.
Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Parfait. Au hasard, une poule sur un mur qui picote du pain dur, picoti, picota, lève la queue et puis s'en bat. Qu'est-ce que vous dites ?
Et moi, j'ai rien dit, chef.
J'avais cru vous entendre parler.
Ah non, je vous le jure, chef.
Maxence n'est finalement pas devenu acteur. Il est le directeur de cabinet de Pierre. Depuis le lycée, il a commencé à s'intéresser à la politique, il se dit centre-droit et il rêve d'une 6e République.
Généralement, on dit d'abord vous faites une carrière dans le privé, vous faites votre carrière professionnelle, vous êtes dans la fonction publique. Et puis après, bah, quand on l'a décidé, au bout de, quand vous avez 40-50 ans, vous présenterez une élection. Bah non, nous c'est maintenant qu'on veut agir.
Maxence n'hésite pas à dire qu'il est prêt à sacrifier sa vie privée par moment pour la chose publique, pour l'engagement politique.
C'est bizarre, hein, d'avoir 22 ans. À chaque fois que je parle de ça, on me dit « t'as 22 ans, tu veux te marier, tu veux... » Bah ouais. Ouais. Ouais, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux... Ouais, j'ai peut-être des idées de vie, en fait.
Et t'as trouvé une femme ?
Non, bah je cherche pas non plus, parce que c'est pas... C'est... Je suis pas sur un site de rencontre, je suis pas... La bonne personne se trouve, et elle se trouvera le moment venu... Je crois que c'est le moment où on s'y attendra le moins, souvent que ça arrive. Et après, ça peut être quelqu'un en plus de... totalement différent de moi.
Ça pourrait être une femme d'extrême gauche, par exemple.
Ça serait un peu...
Au Parti communiste.
Putain, tu vas loin, là. Ce serait un peu difficile, mais si je l'aime, bah ça... Bon, bah, on fera peut-être chambre à part. Hein. Non, mais... Non, mais je... Ouais, faut pas se limiter à ça. Ouais. Bon, c'est vrai que si on s'entend sur ce point-là, c'est
un peu forcé,
mal.
Là.
Oui, oui, non. Oui, bon, bah, si on s'entend sur ce point-là, ce sera bien. Voilà. J'ai toujours dit sur mon épitaphe, sur ma tombe, je voudrais que ce soit écrit Maxence Maillot et puis une citation. J'aurais fait ce que j'ai pu. Mais c'est quelque chose à laquelle je pense souvent.
Quoi, ton épitaphe ?
Ouais, ma mort. Ouais, c'est bizarre, hein, c'est des... Dans pas longtemps, j'écrirai, je pense, un testament ou la manière dont je veux que ça se passe. Moi, je veux pas partir avec une chanson merdique. Hein. Oh non. Je veux choisir ma chanson. Hein. Je veux qu'on rigole, je veux que ça se passe bien, je veux que... Voilà, c'est tout. Mais je veux surtout qu'on se dise les choses de son vivant.
Et ce sera quoi ta chanson, alors ?
Une chanson espagnole. C'est La Salve Rosalía.
Tu l'as, la chanson de ton enterrement dans ton iPhone ?
Ah, oui. à l'âge où, de ma photo, tout à l'heure, j'écoutais Marilyn Manson. Voilà, j'étais au collège, j'avais des Vans à damier avec un groupe de potes assez originaux. Mais moi, je suis passé par tous les styles, par tous les... Et j'ai trouvé le mien.
Et tu définirais comment, là, ton style ?
J'aime bien les chaussettes de couleur. Bon, mon style, conventionnel. Je suis pas en costume tous les jours. Je suis pas en costume, c'est le week-end ou quand il y a une occasion particulière. Sinon, c'est un jean, une chemise et puis un petit blazer. Ça vient de chez Devred. Ça vient de chez Aram. Les chaussures de chez Aram, voilà, c'est simple, mais qui me ressemble, efficace, voilà, confortable. C'est pas plus... Installé. Ah, tu fais la bise comme dans le sud.
Ouais. À Quai-Brochin, ça va?
Tu veux que je mette ça dans le corps?
Ouais, je veux bien.
Maxence était venu me chercher en voiture pour aller dans l'appartement qu'il vient de prendre tout seul. Jusqu'ici, il vivait encore chez ses parents.
Mais t'as même un balcon.
Ouais, avec une petite terrasse, le salon de jardin que mes parents m'ont acheté pour mon anniversaire. Qu'est-ce que tu veux boire? Une poire cognac?
Je veux bien un coca.
Un coca? Allez.
T'as une petite bibliothèque, là?
Ouais.
T'as mis quoi dedans?
Ça.
Oula.
Margaret Thatcher, ses mémoires. C'est un personnage que j'admire beaucoup.
Mais pourquoi?
Dans le charisme, dans la manière de penser, dans la manière de faire de la politique. C'est quelqu'un qui a commencé très bas. Enfin, je veux dire, qui était une fille d'épicier, qui montait par elle-même. Elle a peut-être été impopulaire, mais elle a été réélue par 3 fois. Parce qu'elle a fait ce pour quoi elle était élue. Elle a tenu ses promesses.
Dans l'imaginaire collectif, elle reste quand même quelqu'un de très...
Non, dans notre
autoritaire
imaginaire.
Et difficile. Attends, il y a d'autres choses.
Dans notre imaginaire, elle était autoritaire, mais c'est parce qu'on n'a peut-être plus l'habitude d'avoir des hommes et des femmes politiques qui font de la politique. C'est-à-dire qu'elle, elle était là pour faire quelque chose. C'est un peu du De Gaulle, hein, parce qu'il était un peu comme ça aussi. Là, t'as Napoléon.
Ah ouais, un bus de Napoléon.
Lui, je l'ai eu à Ajaccio. Tony Blair, les mémoires. Chirac, qui fait aussi partie des... C'est lui qui m'a intéressé à la chose politique. Son discours de fin de mandat, son discours d'adieu, entre guillemets, de la politique, au moment où il passait la main, il adoubait Nicolas Sarkozy. Voilà, son discours m'avait touché à l'époque. M'avait touché.
Et t'avais quel âge? C'était jeune?
13 ans, je crois, c'était.
Et qu'est-ce qui t'a ému?
La phrase de conclusion. Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, etc. Et cette France qui n'a pas fini d'étonner le monde. Ouais, c'est ces quelques phrases de conclusion-là, moi, qui m'ont touché, qui m'ont bien plu.
Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde.
On va sur la terrasse ?
Allez. Là, t'as la vue, t'as la petite prairie avec les vaches, notre agriculteur à côté d'Angréo. Et puis t'as Toyota, puis toute la zone d'activité sur le long qui longe l'autoroute là. Moi, j'ai grandi à Mastin, j'ai grandi dans une famille modeste, avec un père ouvrier, une mère employée. On m'a toujours éduqué, si tu veux quelque chose, tu travailleras pour l'avoir. J'ai eu mon permis, j'ai dit il me faut une voiture. Bah, j'ai travaillé, j'ai pris un job étudiant, j'ai fait un crédit à la banque de 4000 euros et j'ai acheté ma voiture. J'ai acheté une Mini.
Tu faisais quoi comme job?
J'étais en caisse à Carrefour. Après, je suis passé de Carrefour, je suis allé à l'électrodépôt. Enfin voilà, j'ai toujours... Puis une fois que j'ai mis le pied dans le boulot, bah, je voulais plus repartir en études. Je me suis jamais senti à l'aise dans le système scolaire. J'étais jamais à ma place. J'ai pas eu mon bac la première fois. J'étais un peu révolté, j'étais dans mon truc, voilà, j'en ai rien à faire, je m'en fous, je voulais même pas aller le passer.
Mais à ce moment-là, tu pensais que t'allais faire quoi? Tu rêvais de quoi?
Je sais pas. Je pensais ouvrir mon auto-entreprise, me lancer dans la com, enfin voilà, faire un truc vivre pour moi. Et puis après, je me suis rendu compte, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas ne pas avoir le bac, c'est pas possible. Donc j'ai fait une capacité en droit, une capa de droit, et j'ai dit, je vais repasser en même temps que le droit, je vais repasser le bac. Je l'ai pas eu. Et tu sais pourquoi je l'ai pas eu? Un hors-sujet en histoire.
C'était quoi le sujet?
France, culture et société depuis la fin des années 60. Et Maxence Maillot, comme il y a un esprit très cartésien, y a fait 10 pages en dressant un bilan de société, de culture et d'économie de Gaulle à Chirac. Et je vois 0 sur mon relevé de notes, c'est pas possible. Et sur la copie, alors en bas, je vois HS. Alors j'étais liquéfié. Alors que ce que je disais était vrai, mais parce que j'ai pas respecté la manière dont on devait l'écrire. Et puis Laurence, qui habite au Nain, me dit, écoute, y a un truc qui existe, il y a une formation, ça s'appelle le DAU. Donc c'est le bac sans être le bac, mais c'est l'équivalent. Bon, je vais le faire. Donc j'ai fait ça. Je l'ai passé en 3 mois. Histoire, sujet, la 5ème République. J'ai dit, j'ai ma revanche. Et là, j'ai fait mes 11 pages sur la 5ème République et j'ai eu mon DAU avec mention bien.
Et finalement, c'est la 5ème République qui t'a sauvé.
Ouais. C'est pour ça que je vais la détruire. Non, je rigole. C'est pour ça que j'en veux une 6ème. Non, mais c'est la 5ème République qui m'a sauvé. Ouais, c'est vrai, j'ai une bonne note grâce à ça. Psychologiquement, j'ai le bac.
Maxence a peur de l'explosion de l'extrême droite parce qu'il voit bien que de plus en plus de jeunes de son âge sont attirés par ce parti.
Et là, dans la région et dans le coin, l'extrême droite, elle est c'est présent.
Les dernières élections à Ona, l'extrême droite était en tête partout. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes aussi au Front National. Je crois qu'ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Parce que c'est des gens qu'on a foutus sur des listes pour dire de remplir. Et ils sont là, mais à part faire une photo, le mettre sur leur Facebook, c'est grave. C'est grave quand même.
Et est-ce qu'ils font un travail justement d'aller chercher des jeunes parce qu'ils ne sont pas là par hasard?
Ils n'ont pas besoin. C'est les jeunes qui viennent à eux. Ils n'ont pas besoin de recruter.
Et pourquoi?
Bah, il y a deux catégories. Il y en a qui sont d'accord avec le discours que tient Marine Le Pen. Et il y en a qui sont plus intelligents ou plus cons, qui se disent « Moi, je vais faire de la politique. Moi, je vais être élu. En ce moment, c'est le Front National qui est porteur. J'ai beaucoup plus de chances de me faire élire sur une liste Front National que je n'en aurais si je me mets sur une liste LR ou socialiste. » Mais ce qui fait aujourd'hui la force du Front National, c'est ça aussi. C'est que des gens qui s'y engagent, non pas par conviction, mais parce qu'ils se disent « Ce sera plus facile d'avoir une place. » Moi, j'ai toujours refusé de voter à la fois pour quelqu'un d'extrême droite comme pour quelqu'un d'extrême gauche. Quand tu es sur un marché, parce que j'ai fait une campagne, quand je suis sur le marché, que je viens, qu'il y a des candidats communistes en face de moi, qui viennent avec tous leurs gros bras, qui refusent de te serrer la main, en traitant de saloperie de gars de droite. Ah bah, je dis le mien d'abord, mon cul. Hein. Et c'est te faire insulter, c'est te faire cracher dessus. On tractait pour Nicolas Sarkozy en 2012, sur la place d'armes de Valenciennes, où on nous a pris nos tracts, on nous a foutus par terre, en nous disant, bande de petits cons, bande de petits, de fils à papa. J'ai dit, mon sang, il a fait qu'un tour. J'ai dit, je vais lui bondir dessus. Moi, fils à papa, mais fait.
Quand je lui ai demandé quels étaient les personnages ou les événements marquants dans l'histoire, Maxence a cité...
C'est Badinter qui, au micro, au perchoir de l'Assemblée nationale, disait « Utiliser la peine de mort contre les terroristes, contre d'autres personnes, c'est faire sienne des valeurs qui sont les leurs. » Il a profondément raison. C'est Simone Veil avec la dépénalisation de l'IVG. Dans un moment assez dur, parce que c'est une femme qui a pris des coups dans la figure, qui, à l'Assemblée nationale, était face à une assemblée exclusivement composée d'hommes. On lui disait qu'il fallait qu'elle retourne, qu'elle allait jeter des bébés au four crématoire. Enfin, je veux dire, c'est assez... Ouais, c'est des dates importantes.
Je sais qu'un certain nombre d'entre vous estimeront en conscience qu'ils ne peuvent voter ce texte. Pas davantage qu'aucune loi faisant sortir l'avortement de l'interdit et du clandestin. Cela, j'espère les avoir au moins convaincus que ce projet est le fruit d'une réflexion honnête et approfondie sur tous les aspects du problème, et que si le gouvernement a pris la responsabilité de le soumettre au Parlement, ce n'est qu'après en avoir mesuré la portée immédiate, aussi bien que les conséquences futures pour la nation.
T'étais un peu garçon manqué quand t'étais ado?
Ouais, j'étais vraiment garçon manqué. Ouais, tout en jogging, des baskets.
Pourquoi? Tu traînais pas mal avec les garçons?
Ouais, j'étais tous les jours avec les garçons. Et je voulais m'habiller comme eux et tout. Ouais, maintenant encore, on m'appelle garçon manqué. On me dit, ouais, mais c'est bon, là, tu t'habilles en fille, qu'est-ce qui t'arrive et tout? T'as trouvé un mec? Ben non, je vais changer. Je suis une fille, hein, au fond.
Souhaïla a décidé à 17 ans qu'elle était féministe. Autre grande décision, elle incite les gens de son quartier à voter pour reprendre le pouvoir. au Neuhof, dans la banlieue de Strasbourg où elle a grandi. Elle ne comprend pas pourquoi les hommes politiques ne viennent jamais dans son quartier, mais elle se dit que si on votait, tout à coup, ils feraient peut-être plus attention.
Alors moi, j'ai des potes qui m'envoyaient des snaps. « Hey, regarde, on va voter et tout, grâce à toi et tout. »
Sur Snapchat.
Ouais, sur Snapchat, on m'envoyait « Ouais, regarde, on va voter, ils nous montraient leur carte électorale et tout. » Mon père, il a grandi au Neuhof. Ma mère, elle a grandi en Algérie. Mais mon père, il a 42 ans. Jusqu'à ses 40 ans, il habitait au Neuhof. Ouais.
Ils se sont rencontrés comment?
Alors, mes parents sont cousins-cousines. Donc, voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Et tes parents, ils travaillaient? Quand ils étaient petites, ils faisaient quoi?
Ma mère, elle travaillait au Parlement européen. Elle était femme de ménage. Et mon père, il travaillait... Enfin, il était en intérim, mais il travaillait à chaque fois dans une usine.
Et toi, tu rêvais de faire quoi quand t'étais, je sais pas, 11, 12, 13 ans? Tu rêvais de faire quel métier dans la vie?
Je voulais être prof de physique.
Ouais.
Parce que quand j'étais en physique, j'aimais trop les cours et tout. Je ratais aucun cours de physique. J'étais tout le temps là, la première. Je répondais à toutes les questions à mon prof et tout.
C'était quoi qui te plaisait?
En fait, il y avait plein de calculs. Enfin, aller se casser la tête et tout. Et moi, j'aime bien me casser la tête, donc ça tombait bien. Et mon prof, je l'aimais trop, donc... J'ai 17 ans, maintenant ça a changé.
C'est vrai?
Ouais. Maintenant, je voudrais bien faire ingénieur en électricité, vu qu'il n'y a pas beaucoup de femmes et je suis la seule dans ma classe. Fille, je suis en bac pro électrotechnique, je suis la seule fille.
Et pourquoi tu as eu cette envie?
Parce que c'est aussi un casse-tête. Et il faut trouver comment. Pourquoi il y a une panne dans ce disjoncteur-là ou voilà quoi.
Des solutions?
Voilà, il faut trouver des solutions. J'aime bien me casser la tête et trouver des solutions à la fin.
Et c'est comment d'être la seule fille, du coup?
Au début, il faut se faire respecter. Parce que si on ne se fait pas respecter, ben, ils te marchent dessus, ils t'insultent. Voilà, quoi, c'est des garçons.
Et comment on se fait respecter?
Il faut tout le temps répondre. Quand ils cherchent, il faut répondre. Bon, moi, j'ai un fort caractère, donc ça a bien marché. Je suis une des meilleures de la classe, donc on me prend toujours au sérieux.
Salut, mesdames!
Des sandwichs.
C'est la fête du quartier au Neuhof. Souheila fait partie des jeunes qui l'organisent. Pour les prochaines élections présidentielles, elle s'est lancée dans un grand projet citoyen pour inscrire les voisins sur les listes électorales.
En fait, au centre, on parle souvent de citoyenneté, d'aller voter, de plein d'actes citoyens. Et quand on a vu qu'au Neuhof, il y avait plus de 80% d'abstention, nous, on était un peu choqués, mais bon, on a eu peur un peu d'en parler.
Toi, ça t'avait choqué?
Ça m'avait choqué, surtout chez nous au Neuhof, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent « Ouais, mais c'est quoi cette loi? Mais c'est quoi ci? C'est quoi ça ?» Levez-vous, allez voter, vous verrez que ça va changer.
Tes parents, ils ont toujours voté ou pas?
Mon père, il a toujours voté. Ma mère, elle a pas la carte d'identité française. Ça fait 25 ans qu'elle habite ici, mais elle a pas la carte d'identité française, donc elle peut pas voter.
Et ton père, tu crois qu'il est satisfait quand il vote?
Il est un peu déçu. Mais il me dit, même si je ne vais pas aller voter pour une personne, je vais aller quand même voter blanc.
Et toi, quand tu as grandi, tu t'intéressais à la politique ou pas?
Avant, je ne m'y intéressais pas. Avant, voilà, quoi, je m'en foutais un peu. Je ne savais pas ce que c'était les élections, c'est quoi un président. Et vu qu'en cours, on fait le droit de vote des femmes, il y a des femmes qui se sont battues pour le droit de vote et elles vont pas voter. Moi, je comprends vraiment pas ça. La plupart, ils disaient, ah, ça sert à rien. De toute façon, ils nous calculent pas. Pourquoi on devrait les calculer?
Et du coup, tu réponds quoi, toi?
Si ils voient que vous votez pas, ils vont pas venir s'intéresser à vous. En fait, là, on a mis en place du porte-à-porte pour voir si les gens ils étaient inscrits sur les listes électorales. On a des feuilles. Et après, on les envoie à la mairie, on les remplit. On prend en photo la carte d'identité et un justificatif de domicile et on envoie tout à la mairie. Et ils ont juste à nous donner leur carte d'identité, en fait. Et après, ils sont inscrits, ils reçoivent directement chez eux à la maison la carte électorale. Et de là, ils pourront aller voter.
Et toi, il y a un discours qui t'inspire particulièrement ou quelqu'un à qui t'as envie de... que t'as envie de suivre ou pas?
Franchement, non. Franchement, non. Ça me donne pas vraiment envie de voter avec leur discours. Mais sinon, je voterai blanc.
Zara, interne en médecine à Dijon à 25 ans. Elle m'avouait que ce n'était pas si simple d'être engagée dans son métier et dans sa lutte sans faire peur aux hommes.
Et moi j'ai plein de garçons surtout,
qui avaient pas du tout le même rapport avec moi une fois qu'ils savaient que j'étais voilée, quoi.
Ça, c'était quoi le rapport qui changeait ?
En général, en anesthésie, tout ça, on garde notre Charlotte de bloc, donc moi ça me va bien. Enfin voilà, je suis. Je veux dire, il y a clairement un rapport un peu de séduction, assez récurrent, et même avec des patients, quoi. Il y a des regards, des trucs, voilà, des propositions qui se font, c'est hyper gênant, parfois et souvent hyper déplacé, etc. Et là, quand les hommes savent que du coup, apprennent que je porte le voile, je sors du champ de la féminité en fait. Et du coup, je deviens rien.
Et du coup, au lycée, c'était quoi les relations avec les garçons ? Enfin, t'as eu des copains ou...
Non, moi j'ai été éduquée dans une famille où clairement c'était hors de question. Avant d'avoir l'âge ouais, de raison, entre guillemets, quoi, pour l'instant. Enfin, je sais que mes parents ont toujours mis la priorité sur les études.
C'est quoi l'âge de raison ?
Je sais toujours pas, je me pose encore la question. Bah, je pense que c'est le moment où on peut réellement vivre voilà, une relation sérieuse, etc. Quoi. Au collège, c'est très mignon, au lycée ici aussi, mais... C'est jamais vraiment très stable et très durable quoi, et pérenne. Donc, tant que c'est du jeu, c'est pas acceptable en fait. En tout cas, dans ma famille, ça l'était pas.
Et est-ce qu'à ce moment-là, t'as, avec l'âge de raison, rencontré un garçon avec qui t'as eu envie d'avoir une relation sérieuse ?
Non, pas tellement. En fait, quand on fait un métier prenant comme ça, déjà, on n'a pas trop le temps. J'ai pas croisé beaucoup de musulmans, déjà, premièrement. Parce que, clairement, c'est les personnes avec qui, je pense, j'aurais le plus de probabilité de pouvoir m'entendre et pouvoir être comprise et de pouvoir... J'ai l'impression que le gros problème, c'est que quand on fait un métier comme celui-là, bah, en fait, on fait un peu peur, déjà. Moi, c'est un truc que j'ai découvert à quel point les femmes indépendantes et comment dire, qui ont réussi, entre guillemets, socialement... peuvent être perçus comme des menaces par des hommes, en fait, qui se sentiraient peut-être troublés dans leur virilité.
Et est-ce que parfois t'as pensé à vivre ailleurs qu'en France aussi ?
Mais en fait, plus ça va et plus je pense à vivre ailleurs qu'en France. Ça devient pesant et je me dis c'est dommage, quoi. Est-ce que c'est ici que je me sens chez moi malgré tout ? Et du coup, ouais, je suis attachée à la culture française autant qu'à la culture égyptienne, algérienne. C'est ce qui me définit, quoi. Donc, moi, j'adore l'Égypte, j'adore l'Algérie. J'y allais souvent quand j'étais petite et j'y vais toujours maintenant. Ouais, je jongle un peu, en fait, entre les trois, quoi. Après, je suis quand même plus souvent en France et c'est ici que je suis née et que j'ai grandi. Donc, c'est différent, mais...
Et si t'allais vivre à l'étranger, t'irais où ?
Moi, il y a une ville qui me tente beaucoup, c'est Londres. Au moment de l'exclusion du collège... J'y suis allée, j'étais mais bouleversée quand j'ai vu une policière qui portait le voile avec sa tenue, son uniforme et sa casquette de policière par-dessus son voile quoi, qui était assortie, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi pas nous quoi ? Je comprends pas. Pourquoi genre là, c'est possible et là, c'est pas possible ? Après, si on me laissait le choix, je pense que je vivrais en France, mais ça c'est si j'étais acceptée en tant qu'individu à part entière, en tant que citoyenne française comme les autres, ce qui n'est pas le cas, quoi. À quel moment je suis censée me sentir française, en fait, quand toute ma vie on m'a dit que j'étais une arabe ? Faut être réaliste aussi, enfin, on ne nous a pas permis de l'être, en fait.
Et à travers quoi on te ramène tout le temps à ça ?
C'est indirect, c'est pas évident, c'est des « et vous ?» C'est chez vous, c'est... je sais pas, c'est... on est l'autre, en fait. Mais c'est quelque chose qui se vit, quoi, dans sa chair, quoi. Donc, on sait ce qu'on est, en fait. Et très jeune, dès l'enfance, on sait pertinemment comment on est perçu. Et c'est un vécu, quoi, je sais pas.
Le projet dont Souheila fait partie, le challenge citoyen qui veut faire voter les gens, est un projet interquartier, entre Strasbourg, Lyon, Paris et Marseille. Souheila a donc voyagé pour parler de son expérience.
On a vu des jeunes de Mulhouse, de Belfort, de Lyon, Vénissieux, Lyon sur Vénissieux, de Marseille, la Busserine, des quartiers nord.
Pourquoi ? Parce que l'idée c'est que vous échangiez comme ça les expériences ?
Ouais, qu'on s'échange nos expériences, qu'on leur montre comment faire, parce que eux ils s'inscrivent, mais ils savent pas vraiment comment faire.
Et comment ça s'est passé la rencontre avec les autres quartiers de France?
Quand on est allé à Lyon, alors la marche des beurs, inconnue pour moi. On m'a appris ça à Belfort.
Vous savez pas ce que c'était la marche des beurs?
Moi, je savais vraiment pas ce que c'était. Il a commencé de Marseille, ils ont commencé à 30, je crois. Ils ont marché jusqu'à Paris, à la fin ils étaient à 10 000, je crois.
C'est ici, à Vénissieux, aux Minguettes, qu'est né ce Paris insensé. Une démarche pacifique, une marche antiraciste, en dépit des brimades, des ratonnades et des crimes commis dans les banlieues. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé, et pourtant c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence.
C'est une lutte non violente, mais on découvre...
On est allé à Marseille, au quartier Nord.
C'était comme tu l'imaginais, tous ces endroits?
Non, vraiment pas. Là-bas, ils ont vraiment une autre façon de parler aussi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont pas comme nous. Ici, il y a souvent les filles à part, les garçons à part. Mais bon, moi, je suis mélangée avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Je m'en fous que ce soit une fille, un garçon, qu'ils soient handicapés ou pas. Là-bas, ils se mélangent tous. On est tous dans la même merde, donc autant rester soudés. Eux aussi, ils sont dans un quartier qui est souvent mal vu par les médias, par les autres gens. Moi, je pensais aller là-bas et voir que des jeunes en scooter. Enfin, bon, chez nous aussi, il y a ça. Mais enfin, pire que chez nous, en fait. Alors que non, j'allais là-bas, c'était normal. C'était un quartier comme le nôtre. Enfin, les médias, pour moi, ils mentent un peu sur le quartier, les quartiers nord.
Parce que du coup, t'avais un peu peur. Tu pensais que ça allait être un peu le chaos.
J'avais vraiment pas peur. Enfin, je me suis dit, ouais, je vais leur parler en manière quartier. Voilà.
C'est quoi parler en manière quartier?
Avec les manières du quartier. Avec wesh, enfin les manières de jeunes, un peu de quartier.
Toi, tu parles comme ça?
Ça dépend des.
Pas maintenant, là.
Là, je parle en français, bah, en vrai français. Mais quand je suis avec mes amis ou quand je suis au quartier, je parle en manière quartier. Par contre, quand je suis en stage, je parle. Normalement, je parle en français, en vrai français, avec des vrais mots, pas avec du verlan, en fait. Pas avec des mots.
Et tu disais à Marseille, je me souviens, ils parlaient pas comme nous, ils parlaient comment du coup?
Ah, ils ont un autre accent là-bas. Nous, on parle, on a l'accent. Comme ils disent chez eux, moi, ils m'appellent la petite boge. J'aurais dit pourquoi vous m'appelez comme ça? Parce que t'as un accent de petite bourge comme ça. Boge, c'est bourge pour.
Hey, arrête de saouler, s'il te plaît. Tu reçois d'ici. Tu reçois, je vais me lever, je vais te frapper, je vais même pas être trop.
Voilà le langage quartier.
Et toi, tu t'imagines où dans 10 ans?
Je m'imagine, je pense au Néo. Je m'imaginerais ingénieur en électricité. J'aimerais trop faire ça de ma vie. Mais bon, après, faut y arriver.
Qu'est-ce qui t'empêcherait d'y arriver?
Bah rien, mais faut réussir les examens, faut passer le BTS, le master.
Et tes parents, ils pensent que tu vas y arriver?
Mon père, ouais. Ma mère, elle me dit, ouais, mais c'est un métier de mec et tout. Mais elle croit en moi.
Ça va, ouais, ça va tout.
Hier, j'ai eu Snapchat.
Hein?
J'ai eu Snapchat hier.
Quoi?
Snapchat? Je connais pas.
Non, Snapchat, c'est quoi ça?
Et toi, tu vas pouvoir voter aux présidentielles ou pas? Tu auras 18 ans?
Ben, les présidentielles, c'est 3 semaines avant mon anniversaire. Donc
voilà, tu vas rater à 3 semaines.
Ouais, je pourrais pas voter. C'est un peu moche de pas voter. J'incite les gens à aller voter, mais moi, je peux pas voter. En fait, c'est ça aussi. C'est inciter les plus grands à aller voter. Moi, j'ai des cousins, ils ont jamais voté de leur vie, ils ont 26 ans.
Vous avez entendu Pierre, Maxence, Zara et Souheila parler de leurs nouveaux engagements. C'était un documentaire d'Aurélie Charron, réalisé par Delphine Lemaire, mixé par Bernard Laniel. Tell them we're coming. Imagination is what we're demanding. We won't stray. You'll hear us scream and shout.
shot. Dance to a different drum.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous voulez vous engager, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la mairie ou nous réécouter au lycée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter et demain, dernière étape, retrouver la joie et une vision de l'avenir.